Bonjour à tous. L'Argentine rend légal l'avortement. L'IVG est désormais autorisé sans condition jusqu'à 14 semaines de grossesse. Une première pour les grands pays d'Amérique latine. Reportage à Buenos Aires où les partisans du oui fêtent la nouvelle.
En France, le gouvernement envisage un couvre-feu étendu.
Dès samedi, dans les départements les plus touchés par la deuxième vague épidémique, avec une interdiction de sortir de 18h à 6h du matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se donne désormais 48 heures pour discuter les contours de ces mesures avec les acteurs locaux. On y revient en détail dans un instant. Feu vert du Royaume-Uni pour le vaccin AstraZeneca, un vaccin très attendu car moins cher et plus facile à distribuer que celui de Pfizer, le seul autorisé pour le moment dans l'Union Européenne. Nous ferons le point avec Louise Baudet.
La fréquentation des cinémas a chuté de 70% par rapport à l'an passé.
Ah oui, le bilan annuel du CNC vient confirmer l'impact terrible de l'épidémie du coronavirus sur les cinémas français qui pourraient du reste ne pas rouvrir comme prévu la semaine prochaine. Pour en parler avec nous ce midi, notre invité est Valérie Lépine, déléguée générale de l'Union des producteurs de cinéma. Et à l'issue de ce journal, on vous retrouve Maëlys Bessery pour la grande table des idées. L'Argentine est le premier grand pays d'Amérique latine à légaliser l'avortement. Le Congrès argentin a adopté ce matin la loi légalisant l'IVG à 38 voix contre 29. Le texte autorise l'interruption volontaire de grossesse sans condition pendant les 14 premières semaines. Et à Buenos Aires, des milliers de partisans du oui ont manifesté leur joie à l'issue du vote. Reportage de Caroline Vic.
Sur les écrans géants, le mot « approbado », « approuvé » s'affiche en grand. Explosion de joie, des cris, des pleurs et beaucoup d'émotions. Lara, 21 ans.
Je suis super contente, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est beaucoup d'adrénaline et là je pense à ma grand-mère. Aujourd'hui elle n'est plus là, mais elle m'a enseigné comment lutter et grâce à elle, j'ai compris ce que c'était être féministe.
Car sur cette place, au pied du Congrès, ces jeunes filles, des paillettes vertes sur le visage, ont veillé toute la nuit. Un vrai moment de sororité. Lucia, 24 ans.
Ça a été très beau, incroyable, avec les gestes barrières, la distance et le masque, certes, mais c'est un sentiment magnifique de vivre ça toutes ensemble, dans la joie et la chaleur. Je suis très contente.
Florencia, 23 ans, qui a avorté clandestinement, ce vote est d'autant plus fort.
Ça m'a touchée de très près. Moi et d'autres femmes criminalisées et jugées pour avoir pris la décision d'interrompre une grossesse pour des raisons différentes. Ça a été mon cas et je crois que cette loi était une dette que l'Argentine avait envers les femmes. Donc je suis très heureuse.
Une victoire et une avancée sociale pour les militantes féministes et une bouffée d'oxygène après des semaines de débats virtuels tendus et une année particulièrement difficile.
Le reportage à Buenos Aires de Caroline Vic. En France, alors que le conseil scientifique juge probable une reprise incontrôlée de l'épidémie après les fêtes de fin d'année, le gouvernement écarte pour le moment l'hypothèse d'un troisième confinement. En revanche, il envisage un couvre-feu étendu dans 20 départements à partir de samedi, notamment dans la région Grand Est et Provence, Alpes, Côte d'Azur. Dans ces départements, l'interdiction de sortir s'étendrait de 18h au lieu de 20h actuellement, et ce jusqu'à 6h du matin. Et pour acter précisément ces mesures, le ministre de la Santé se donne désormais 48 heures de discussion avec les préfets, les agences régionales de santé et les élus, des acteurs locaux qui ont eu des réactions très partagées ce matin. Les explications de Sophie Delpont.
C'est l'inquiétude qui domine pour la plupart des élus de la région Grand Est, très touchée par les contaminations. À l'image de Valérie Bosserlec, présidente socialiste du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
Je suis dubitative et j'espère en tout cas que l'avenir me donnera tort. Je faisais partie avec un certain nombre d'élus locaux du Grand Est à appeler un reconfinement réduit dans le temps et localisé effectivement sur l'ensemble de notre région Grand Est. Je crois que si effectivement on a ce couvre-feu avancé à 18h et que mi-janvier on constate que cette chaîne pandémique n'est pas suffisamment stoppée et qu'on soit obligé de reconfiner en janvier, là les Français comprendront pas.
Pour le maire de Nice, Christian Estrosi, en revanche, un couvre-feu anticipé à partir du 2 janvier est ajusté à la situation.
Je salue les décisions prises par le gouvernement. Il y avait le choix entre reconfiner ou au contraire de prendre la mesure d'un couvre-feu anticipé, la bonne formule parce que elle était suivie de moins de sanctions à l'égard de ceux qui se comportaient de manière exemplaire et en même temps n'interrompaient pas l'activité économique.
Il salue la concertation entre les élus locaux et le ministre de la Santé Enfin, le gouvernement s'appuie sur les territoires, sur les élus, sur une gestion différenciée, souligne aussi Jean Rottner, président LR de la région Grand Est. Même s'il avait réclamé un reconfinement local au plus tôt et qu'il craint que ce couvre-feu avancé puisse faire prendre un train de retard dans la lutte contre la propagation du virus. La concertation avec les préfets, les agences régionales de santé et les élus prendra fin ce vendredi.
Les précisions de Sophie Delpont. 48 heures donc désormais pour acter ces allongements de couvre-feu. Une solution intermédiaire alors que certains élus locaux et professionnels de santé continuent d'appeler à un troisième confinement, qu'il soit local ou national. D'autant que le dernier avis du conseil scientifique est assez alarmiste. Bonjour Laurine Benjebria.
Bonjour.
Le conseil scientifique qui recommande d'aller vite en raison d'une probable reprise incontrôlée de l'épidémie à cause, je cite, du surcroît de contamination provoqué par les fêtes de fin d'année.
Oui, l'instance n'est pas optimiste quant aux semaines à venir. Les indicateurs de l'épidémie font le yo-yo. Les effets des couvre-feux et du reconfinement ne sont plus visibles. La pression sanitaire trop élevée depuis 2-3 semaines. Et pourtant, nous n'avons pas encore mesuré les effets de ce qu'a été Noël. 11 400 nouveaux cas recensés hier, deux fois plus que ce qu'espérait le gouvernement. Avec une différence notable selon les territoires, le virus fait des ravages dans la moitié est de l'Hexagone, tandis que l'Ouest semble relativement épargné. Sophie Delpont le disait, quatre zones inquiètes. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, les taux d'incidence enregistrés à Noël étaient particulièrement mauvais. 292 nouveaux cas enregistrés en 7 jours pour 100 000 habitants. C'est plus du double de la moyenne nationale. Une situation sanitaire fragile aussi dans les hôpitaux. Sur les 471 lits de réanimation du Grand Est, 292 étaient occupés par des patients Covid dimanche. En Bourgogne-Franche-Comté, le taux d'occupation des lits hospitaliers était de 87% à Noël. Données qui devraient logiquement monter dans les prochains jours. Effet boomerang des fêtes de fin d'année. Alors pour y faire face, dès la semaine dernière, le conseil scientifique proposait trois options. Du confinement strict à une réponse plus tardive en fonction du nombre de nouveaux cas. Le conseil de défense préfère finalement la solution médiane, à la fois dans la dureté des restrictions que dans le délai de mise en œuvre, en se laissant trois jours d'observation, méthode qu'il convient maintenant d'expliquer selon le conseil scientifique, justifier Thomas les restrictions pour mieux les faire appliquer.
Les précisions de Laurine Benjebria. Et face à la recrudescence des cas de Covid-19 à Nice, la vaccination commence dès aujourd'hui dans la ville, une semaine avant la date prévue selon le maire Christian Estrosi, le maire qui justifie cette mesure anticipée par les spécificités de sa ville proche de Monaco, de l'Italie, avec un aéroport qui reprend doucement son activité. Les injections débute au CHU de Nice et devrait continuer la semaine prochaine dans les maisons de retraite. Sur la plateforme de pré-inscription, 10 000 personnes sont déjà inscrites hors EHPAD, selon la mairie. Et ces vaccins, eh bien, ce sont toujours ceux du laboratoire américain Pfizer, le seul autorisé pour le moment par la Commission européenne, mais il pourrait bientôt être rejoint par le vaccin britannique AstraZeneca. En effet, l'agence britannique du médicament a donné son feu vert à ces doses développées avec l'aide de l'université d'Oxford. Le Royaume-Uni est donc le premier pays à approuver ce vaccin moins coûteux et plus facile à distribuer. Les explications de Louise Baudet.
Cette autorisation d'un second vaccin, tous en ont entendu parler ce matin et tous s'en réjouissent comme Terry, 78 ans.
Oui, c'est une très bonne nouvelle. J'espère que ça nous sortira de là, même si ça prend plusieurs mois. Ce vaccin est plus pratique que l'autre parce qu'il n'a pas besoin d'être conservé à moins 70 degrés. C'est beaucoup plus facile à contrôler.
Un vaccin qui plus est britannique, l'université d'Oxford est partie prenante, de quoi faire vibrer la fibre patriotique de Tim.
C'est une super nouvelle, je suis fier qu'on ait des gens pour développer ce vaccin. Ce sont exactement les personnes qu'il faut. Et je suis très heureux qu'on soit parmi les premiers.
Sharon, 56 ans, a hâte de se faire vacciner et est très au fait du calendrier établi par les autorités.
Sur Internet, on peut vérifier quand on sera vacciné en fonction de son groupe d'âge. Pour moi, ça devrait être en mars. Et ça veut dire que j'aurai peut-être un été.
Même chose pour Wendy, 73 ans, microbiologiste acquise à la cause vaccinale. Elle ne comprend pas les sceptiques qui, des deux côtés de la Manche, se méfie.
Presque le tiers des Britanniques ne veulent pas se faire vacciner. Je trouve ça fou parce que pour la sécurité de tous, il faudrait que plus de 80% de la population le soit. Je pense que le gouvernement doit faire plus pour convaincre que c'est la meilleure chose à faire pour nous tous.
D'autant que le Kent est en pleine zone rouge, le taux d'incidence de la maladie, 750 cas pour 100 000 habitants, est presque deux fois supérieur à la moyenne nationale.
Louise Baudet avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Par ailleurs, face à cette nouvelle souche de coronavirus qui circule en Angleterre, les mesures de confinement vont être étendues dans le pays. Le secrétaire à la santé, Matt Hancock, doit donner les détails à la Chambre des communes dans l'après-midi. À Wuhan, considéré comme le berceau du coronavirus en Chine, le bilan réel serait 10 fois supérieur au bilan officiel. C'est en tout cas la conclusion d'une étude du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. Le gouvernement aurait, selon eux, largement minoré les chiffres. Une correspondance à Beijing de Zifan Liu.
D'après le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies, 4,43% des habitants de Wuhan étaient porteurs d'anticorps, c'est-à-dire que leur organisme avait réagi à la présence du coronavirus. Rapporté à la population globale de la ville, 480 000 habitants ont été contaminés. C'est près de 10 fois plus que le bilan officiel qui fait état de 50 000 cas dans la mégalopole, berceau de l'épidémie, et de très loin la ville chinoise la plus touchée par le virus, avec près de 4 000 morts. Toujours d'après cette étude réalisée en avril, au lendemain du pic de l'épidémie, le taux de contamination tombait à 0,44% dans le reste de la province du Hubei, dans laquelle est située Wuhan, qui avait été soumise à un confinement strict pendant 76 jours. Ces chiffres viennent relancer le débat sur la transparence des autorités chinoises sur leur gestion de l'épidémie. Au début du mois, CNN diffusait des documents confidentiels issus de la province du Hubei qui démontraient que les autorités locales avaient sous-estimé de façon manifeste le nombre d'infections au début de l'épidémie.
Zifan Liu, et ce matin, le laboratoire chinois Sinopharm annonce une efficacité de 79% pour l'un de ses vaccins anti-Covid qui doit être diffusé en Chine, mais aussi dans plusieurs pays en développement. La filiale de Sinopharm a envoyé une demande officielle de mise sur le marché à l'administration chinoise. À noter qu'en Chine, 5 vaccins sont en dernière phase d'essai sur l'homme. C'est plus que dans tout autre pays. En France, l'avenir proche qui s'obscurcit à nouveau pour le monde de la culture. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a confirmé à demi-mot hier. Il paraît difficilement concevable à ce stade de lever la totalité des contraintes, a-t-il déclaré. Au sujet notamment des lieux culturels qui devraient rouvrir la semaine prochaine, le 7 janvier. Une mauvaise nouvelle de plus si elle est confirmée pour le cinéma. Par ailleurs, la fréquentation des cinémas a quasiment chuté de 70% par rapport à l'an passé. C'est ce que nous apprend le bilan annuel du CNC. Paru ce matin. Pour en parler avec nous ce midi, notre invitée est Valérie Lépine, déléguée générale de l'Union des producteurs de cinéma. Bonjour madame.
Bonjour.
Le bilan annuel du CNC, on le disait, montre une baisse de près de 70% de la fréquentation des salles par rapport à l'an dernier. Les cinémas français peuvent-ils tout simplement se relever d'une telle crise ?
Alors c'est un chiffre vertigineux que nous a communiqué le Centre national du cinéma aujourd'hui. Vertigineux mais sans surprise malheureusement, 70% de baisse de fréquentation, 65 millions d'entrées contre 213 l'année dernière. Ça représente une perte pour le secteur des salles de 1 milliard d'euros. C'est énorme. Comme je vous le disais, c'est vertigineux. Le cinéma est un secteur particulièrement résilient. Depuis le début de la crise, aussi bien la production que l'exploitation et la distribution sont organisées pour surmonter ces moments difficiles. Le Centre national du cinéma, le CNC, a largement aidé les différents opérateurs avec des plans sectoriels et le gouvernement, évidemment, avec des plans en faveur des intermittents du spectacle et le congé et le chômage partiel, pardon. Pour autant, on est vraiment dans une situation, sinon désespérée, du moins vraiment, vraiment critique. Et on attend avec impatience que l'état sanitaire s'améliore, évidemment, comme tous les Français, et de préférence rapidement pour que les spectateurs puissent rejoindre les salles.
Et quand on regarde ce bilan, on pense évidemment tout de suite aux salles de cinéma qui sont toujours fermées. Qu'en est-il côté production ? On sait que les tournages de films sont autorisés. Est-ce que ça peut tout de même limiter les dégâts ?
Les tournages ont pu reprendre dès le mois de juin. Alors, ils ont repris dans des conditions de contraintes sanitaires particulières, avec des soins particuliers apportés à l'hygiène, la sécurité des personnes sur les plateaux, des comédiens. Pour autant, ça représente des surcoûts très importants pour le secteur. C'est de l'ordre de 10%, 10% qui n'ont pas été évidemment anticipés dans les budgets. ce qui met tout le secteur vraiment en difficulté. Alors oui, les films ont pu se tourner. Maintenant, la grosse difficulté, on le comprend bien, c'est l'embouteillage. L'embouteillage dans les salles dès qu'elles réouvriront. Et puis une autre donnée aussi importante, c'est que certes les films ont pu reprendre, mais dans des proportions bien inférieures à ce qui s'est passé l'année dernière, puisque il y a une baisse de la production des films mis en tournage de l'ordre de 25% de films en moins à venir.
Vous parlez d'embouteillage, ça c'est pour les films qui sont au cinéma. Il y a aussi ceux qui n'y seront pas ou qui y seront uniquement en partie. Je pense aux productions américaines. Il y a eu plusieurs coups durs ces derniers mois. Je pense à Mulan, hein, par exemple, qui n'est pas sorti en salle entre les deux confinements, alors que les salles étaient ouvertes. Disney a préféré le sortir sur sa plateforme de streaming. Il en sera de même dans les mois qui viennent pour quelques blockbusters comme Dune ou Matrix 4, par exemple. C'est l'une des conséquences indirectes de cette pandémie. Est-ce que ça vous inquiète ?
Les producteurs de cinéma ne produisent pas des films pour les voir diffusés sur les plateformes. C'est le grand écran qui, bien évidemment, doit être le vecteur premier des films qu'on tourne. Alors, il y a des Français aussi, hein, des films français qui ont été achetés par les plateformes, Forte ou le film Pinocchio qui est passé sur Netflix ou sur Amazon. Donc, ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite faire, mais on voit bien qu'on est dans une situation parfois très, très préoccupante pour l'économie et pour la survie des entreprises. À terme, encore une fois, on sait que les plateformes numériques comme Amazon et Netflix que je viens de citer vont contribuer au cinéma français, puisque une directive devrait être mise en œuvre, une directive européenne devrait être mise en œuvre dès le premier semestre 2021 et obliger ces plateformes à contribuer à la production cinématographique et audiovisuelle française. Ça veut dire que ces plateformes vont mettre de l'argent dans la production française. Donc Netflix c'est quelque chose qui nous laisse espérer quand même dans le contexte actuel d'avoir des financements supplémentaires pour notre production nationale.
Netflix va notamment payer entre 150 et 200 millions d'euros chaque année pour participer à la création française. Oui, c'est des montants qui vous semblent suffisants ?
Alors, on parle d'un montant global pour l'audiovisuel et le cinéma, donc pour la production des séries, hein, c'est 200 millions ou 150 millions, et du cinéma. Le cinéma aurait une contribution de l'ordre de 20% de ce montant total, ce qui fait que 30 millions à peu près seraient consacrés à la production cinématographique. C'est évidemment une somme que nous accueillons avec satisfaction. Pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est que les autres contributeurs traditionnels, les chaînes de télévision, les distributeurs de films sont dans une situation difficile financièrement et pour parler par exemple de Canal+ aussi, hein, on craint un retrait de ces financiers traditionnels du cinéma français. Donc ce que l'on espère, c'est avoir une situation à l'équilibre dans les mois à venir.
Merci Valérie Lépine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans ce journal. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'Union des producteurs de cinéma. Les dirigeants de l'Union européenne ont signé l'accord post-Brexit. Ultime débat et signature aujourd'hui à la veille de la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen. Les députés britanniques doivent maintenant se prononcer cet après-midi sur cet accord conclu dans la douleur la semaine dernière pour éviter le fameux no deal 4 ans et demi après le référendum du peuple britannique. Le moment est solennel même si l'issue du vote ne fait aucun doute. Une correspondance à Londres de Richard Place.
Boris Johnson s'est assuré une journée tranquille avant même l'arrivée des parlementaires ou leur connexion, puisque la plupart d'entre eux sont en visioconférence à cause des restrictions sanitaires et parce que cette convocation tombe en plein milieu de leurs vacances. Par de longs échanges ces derniers jours, le Premier ministre a convaincu son parti, et notamment les Brexiteurs les plus durs, de l'intérêt de cet accord. Les conservateurs, largement majoritaires, vont voter en faveur de ce texte. C'est donc un Johnson serein qui s'est adressé aux élus. Le projet de loi nous redonne le contrôle de notre argent, nos frontières, nos lois et nos eaux territoriales en quittant l'Union européenne. Saisissons maintenant ce moment pour forger une nouvelle relation fantastique avec nos voisins européens basée sur le libre-échange et une coopération amicale. Le Premier ministre peut ainsi ferrailler pour le plaisir du verbe avec ses opposants. Premiers accrochages dès ce matin avec le parti national écossais que Boris Johnson rebaptise le parti nationaliste écossais, l'un des mouvements minoritaires qui votera contre l'accord aujourd'hui. Il pourra aussi se délecter des dissensions au sein du principal parti d'opposition. Les travaillistes sont divisés. Le chef a demandé un vote favorable, mais l'aile gauche a choisi de s'abstenir.
Une correspondance de Richard Place à Londres. La Russie élargit ses sanctions visant des responsables britanniques. Une réponse à des mesures similaires adoptées en octobre à l'encontre de Moscou par Londres, sur fond d'empoisonnement du principal opposant russe Alexei Navalny. La Russie, partant du principe de réciprocité, a pris la décision d'accroître le nombre de citoyens britanniques qui se voient refuser l'entrée dans notre pays, indique le ministère russe des Affaires étrangères, sans préciser l'identité ou le nombre de responsables concernés. Selon Moscou, les Britanniques en question sont ceux qui sont impliqués dans l'escalade des sanctions anti-russes. À Hong Kong, les verdicts sont tombés dans le procès des 12 jeunes fugitifs, 11 hommes et une femme. Procès qui a eu lieu lundi devant le tribunal populaire du district de Yantian, auquel aucun témoin indépendant n'a pu assister. Des verdicts qui vont de la simple relaxe pour les deux mineurs à 3 ans de prison pour les organisateurs de cette fuite par la mer qui a mal tourné. Les précisions de Florence de Changy depuis Hong Kong.
Pour les familles qui s'attendaient au pire après 4 mois sans aucune nouvelle de leurs enfants, ces verdicts apportent une forme de soulagement. Ils signent le début de la fin d'un long cauchemar. Pour les deux mineurs du groupe de 16 et 17 ans au moment de leur capture, ils sont déjà aux mains de la police de Hong Kong. Ils vont devoir répondre des inculpations liées à leur implication dans la révolte de l'an dernier et vont être en plus inculpés du délit de fuite. Pour les 8 autres jeunes accusés d'être entrés en Chine illégalement, ils ont écopé de 7 mois de prison alors que la peine maximum était de 1 an. Et si l'on décompte les 4 mois déjà purgés, il leur reste 3 mois de prison en Chine avant de pouvoir rentrer à Hong Kong. Les peines les plus lourdes sont tombées pour les deux organisateurs de cette fugue qui a mal fini. Ils ont écopé de 2 et 3 ans de prison en Chine alors que la peine maximum était de 7 ans. Pour l'ancienne députée d'opposition Claudia Mo, cet épisode montre surtout le nouveau au rôle de la Chine dans les affaires de Hong Kong.
Tout cet épisode est une démonstration claire de l'étendue des pouvoirs de Pékin qui couvre l'ensemble des affaires de Hong Kong. C'est aussi un avertissement à quiconque aurait l'intention de s'échapper ou de fuir Hong Kong.
Le fait que Pékin ait choisi la période entre Noël et Nouvel An pour clore cet épineux dossier montre aussi qu'elle souhaitait le faire le plus discrètement possible.
Les précisions de Florence de Changy depuis Hong Kong. Au Yémen, au moins 2 explosions se sont produites à l'aéroport d'Aden alors qu'un avion transportant le nouveau gouvernement d'union est arrivé dans la capitale provisoire de ce pays en guerre. Au moins 2 explosions ont éclaté lorsque l'avion a atterri et que les responsables ont commencé à sortir de l'appareil. Une source sécuritaire fait état de plusieurs blessés. Et nous refermons ce journal avec des tristes records qui continuent de tomber après les pluies historiques et les sécheresses extrêmes. 2020 sera aussi l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Un nouveau signe criant du réchauffement de la planète avec une température moyenne atteignant 14 degrés sur tout le territoire, en moyenne évidemment selon Météo France. Jean Jouzel, climatologue et vice-président du GIEC, n'est malheureusement pas surpris de cet énième record. Écoutez.
Alors c'est pas une surprise non plus à titre personnel parce que quand je me retourne vers ma jeunesse, il y a une 50aine d'années, dans les 60, eh bien, nous avons en Bretagne, mais aussi en général en France, 2 degrés de réchauffement. C'est important. Aussi, si je regarde un peu, il y a une 50aine d'années, j'ai commencé à travailler sur ces problèmes climatiques au début des années 70, eh bien, je n'osais pas parler de température qui serait supérieure à 45 degrés en France. On nous aurait ri au nez, et nous en sommes là. Et c'est un signal dont j'espère qu'il va faire percevoir à nos concitoyens l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors cette urgence, elle n'est pas simplement dans les températures. Nous avons vécu une année avec des événements climatiques extrêmes en termes de records de chaleur. Il y a eu des canicules, mais il y a eu aussi des inondations, des événements méditerranéens assez importants, des sécheresses dans d'autres régions. On voit bien que le changement climatique est quelque chose que nous vivons maintenant à l'échelle vraiment de notre vie de tous les jours. Et donc, mon espoir, c'est vraiment que ce signal soit là pour nous dire, et ce signal est aussi présent à l'échelle planétaire, pour nous dire qu'il est urgent d'agir pour tout simplement préserver pour les jeunes d'aujourd'hui un climat auquel ils pourront s'adapter dans la deuxième partie de ce siècle. Et c'est bien ça tout l'enjeu de l'accord de Paris.
Le climatologue Jean Jouzel au micro de Véronique Rebérotte. Un mot de la météo pour vous dire que la vigilance orange pour crue est maintenue dans les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne ainsi que le Tarn-et-Garonne. Cet après-midi, de la pluie sur tout l'ouest, de Cherbourg à Biarritz, de la pluie également dans les Pyrénées et le Grand Est, et même quelques orages en Corse. Un soleil timide partout ailleurs. Côté température, comptez 1 degré à Aurillac, 5 à Lille, 6 à Paris et Lyon, 8 à Bordeaux, 10 à Perpignan et Ajaccio. C'est la fin de ce journal, réalisé avec l'aide de Brice Garcia, à la technique Théo Gomard.